J'ai passé beaucoup de nuits à prier et prier encore pour qu'au réveil la vie soit différente, pour que le lendemain soit un autre jour. Au début, je prie pour changer, pour être comme ils veulent que je sois. Mais à mesure que je plonge dans cette foi chaque jour plus intense, je commence à prier pour me réveiller le lendemain transformée en la femme que je veux être, transformée en la femme que je sens à l'intérieur de moi de manière tellement claire que je passe des heures à prier pour elle. Quand je tombe amoureuse de mes camarades d'école, je prie pour qu'ils me voient comme une petite fille. Quand je commence à m'épanouir, je prie pour que, durant la nuit, ils me poussent des seins, pour que mes parents me pardonnent, pour qu'un vagin apparaisse entre mes jambes. Pourtant non, entre les jambes, j'ai un couteau. Camila Sosa Vilada est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son premier roman. Elle est avec nous en lien d'Argentine où elle vit et nous sommes en présence de sa traductrice Laura Alcoba qui est aussi écrivaine. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Disiez-vous merci à la vie quand vous étiez un adolescent, Camila Sosa Vilada?
Non.
Non.
Non. Non, 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 non. No decía gracias non, a nada non. Porque no recibía
je
nada.
Je disais pas merci à la vie parce que je recevais rien, en fait.
Sí, agradecía... los libros que me regalaban mis padres, y agradecía la amistad que me ofrecían algunas personas, la vida entendida como la cultura, como
la vie comprise comme
poblaciones,
la
no me daban
culture,
nada, solo
le peuple. J'avais pas le sentiment que ça me donne quoi que ce soit.
¿A qué edad êtes-vous arrivé a Buenos Aires?
Yo vivo en Córdoba, no en Buenos Aires.
Je vis à Córdoba, et c'est une province, en fait, c'est une province méditerranéenne, mais qui est au plein cœur de l'Argentine. Et j'y suis allée, en fait, pour étudier en 2000, alors que j'avais 18 ans.
Étudier quoi? La littérature? Vous vouliez devenir écrivaine?
Comencé a estudiar comunicación social y
comencé a estudiar la comunicación social.
Al tercer año de estudiar comunicación social,
après trois années d'études, a estudiar
en la facultad de teatro.
J'ai commencé aussi des études dans la faculté de théâtre.
E hice otros tres años más, casi cuatro.
J'ai fait trois années de plus, presque quatre.
En paralelo y luego abandoné las dos carreras.
Ensuite, j'ai abandonné en fait les deux cursus.
Votre premier roman a été publié il y a quelques mois en traduction française par Laura Alcoba, qui est ici présente. Il s'intitule « Les vilaines ». Il nous éblouit tant par l'intensité des personnages que vous mettez en scène que par les enjeux à la fois théoriques, psychiques et sexuels que pose votre premier roman. Quand avez-vous décidé de l'écrire et pour quelles raisons, Camila?
Comencé a escribir algunos pasajes.
Alors j'ai commencé à écrire certains passages qui étaient en fait la rencontre de la tante Encarna avec son bébé en 2007. Je faisais une pièce de théâtre qui s'appelait Le cabaret de la difunta Correa, qui est un mythe en fait argentin. Et donc, il y avait certains numéros, et donc l'un de ces numéros était au final, et c'était la tía Encarna, qui était une trans. Ça, c'est en 2017. J'ai compris en fait que ce personnage avait beaucoup plus en fait à donner et que c'était pas le théâtre qui allait faire ça. Et donc j'ai commencé à écrire des petites choses et puis en 2018 en fait il y a un éditeur qui m'a demandé en fait de lui envoyer des choses que j'avais écrites. Hein. Et du coup il a compris qu'il devait me publier en fait hein, et il m'a demandé encore de lui envoyer les choses les plus étranges en fait que je pouvais avoir écrites et je lui ai envoyé cette histoire de la tía Encarna et voilà et puis petit à petit j'ai retravaillé, c'est devenu un roman.
Alors en France, en ce qui concerne votre biographie, Camila Sosa Vilada, on dit de vous que vous avez été prostituée, que vous avez été vendeuse de rue et que vous avez été femme de chambre. Est-ce vrai?
No era de hoteles, era de casas de familia.
Alors, en fait, je n'étais pas femme de chambre si, hein, dans des hôtels. J'étais dans des maisons, mais tout
todo
le reste, c'est vrai.
Que se diga hein? De mí es cierto.
Toutes les mauvaises choses qu'on raconte sur moi, c'est vrai.
Mais c'est pas une mauvaise chose que d'avoir été prostituée, Camila.
Non, 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 para nada. Pero
non,
si,
absolument pas, en effet.
Mucha vergüenza en algún momento.
Mais je crois que d'une certaine manière, c'est quelque chose qui cause beaucoup de honte, certaines fois.
Es decir, Et no es ninguna vergüenza, por supuesto.
C'est
no
évidemment
lo es,
pas quelque chose de honteux, évidemment.
Yo fui prostituta. Siendo muy joven,
j'ai été prostituée
entonces,
très jeune.
Además de l'oficio, et sobre la vergüenza,
on va dire qu'en plus du métier, j'ai appris sur la honte, sur ce que ça signifiait en fait hein, pour une fille de mon âge de vendre son corps dans
et
la rue.
Solo,
et pas seulement en fait
lo sexual,
la honte par rapport au sexe ou par rapport aux échanges, mais parce que on apprend en fait ce qu'est l'être humain avec toutes les choses bonnes et les choses qui sont effrayantes aussi.
Hein.
Et cette connaissance-là aussi, c'est quelque chose qui peut provoquer la honte.
Votre livre, Camila. Se passe dans un bordel où vivent des trans qui sont solidaires entre elles, se respectent beaucoup, intensément même, et toutes les nuits décident, pour gagner leur vie, d'aller dans un parc où elles vont se faire payer pour leur passe sexuelle. Votre livre est à la fois très onirique et à la fois très réaliste. Comment faut-il comprendre ces enjeux-là? Est-ce que c'est plutôt un courant de réalisme où vous avez à cœur, pour nous lectrices et lecteurs, de rendre compte de la vie de ces filles qui n'arrivent pas par plaisir dans ce bordel? Ou est-ce qu'il faut prendre vos personnages comme des personnages que vous avez inventés?
Je crois que chaque personne prend le livre comme il ou elle le peut.
Hein,
je ne vais pas m'impliquer là-dedans. Chacun prend les choses comme il les peut. Je crois, oui, que le livre
est prêt pour la magie,
il est prêt pour que se passent des choses extraordinaires dès le début.
Et
dans certains lieux, on dit que ce livre appartient au réalisme magique, mais le livre commence en fait en parlant de la tía Encarna, qui est une personne déjà un peu extraordinaire hein, en raison de son âge. Et puis après, on rencontre les trans et on peut se dire, voilà, bon, c'est des personnes en fait qui ressemblent à l'auteur, mais tout ça évolue grâce à la manière dont le livre est structuré, ça permet à la magie en fait d'arriver.
Bueno, yo la contemplación sobre el cuerpo de las travestis,
contemplation, le regard sur le corps des trans, c'était évidemment ce regard que j'avais quand j'étais jeune sur le regard de ces trans. Ça m'intéressait. C'était quelque chose qui toujours m'intriguait. On n'avait pas le sentiment qu'elles étaient réelles, vraiment. C'était presque des personnages de science-fiction et la manière dont elles attiraient l'attention des gens. Et effectivement, quand on les voyait passer, la manière dont elles s'échappaient de la police, ou comment. Des choses, en fait, que des personnes complètement enserrées dans le réel, en fait, comme ce l'était à ce moment-là, ne pouvaient pas concevoir comme quelque chose de possible. Alors que moi, je les voyais effectivement se préparer, faire tout un tas de stratégies pour échapper à la police. Hein, et à moins 5, elles étaient en lingerie dehors, hein, en sous-vêtements dehors.
Auriez-vous pu écrire ce livre si profond, si humaniste vis-à-vis de la prostitution et des personnes qui se prostituent si vous n'aviez pas vous-même exercé ce métier, Camila?
Non. Yo decía que yo tengo un conocimiento del mundo. Alors,
évidemment,
muy expuesto,
un j'ai une connaissance
limitado.
Du monde
es
qui est très limitée.
Hein.
Ça veut
yo
dire
no sé
que
francés,
je ne sais pas parler le français, je ne connais pas l'anglais, je ne connais pas l'Europe, en fait. Je ne connais que la Finlande parce qu'un jour on m'a payé le voyage.
Mi familia nunca salió del,
ma famille n'a jamais quitté l'Argentine.
Es decir, conozco muy poco del mundo. Recién ahora,
je connais
trabajo,
très peu de choses du monde. Juste maintenant, grâce à ce travail, j'accrois mes connaissances un peu, mais j'avais une connaissance profonde.
Lo que significaba ser prostituta,
de ce que ça signifiait d'être prostituée, de tout ce qui allait avec. Le problème avec la prostitution, et quand on réfléchit par exemple à la question de son abolition, de sa légalisation, de lieu, ça veut dire qu'il y a toujours en fait une part des personnes qui n'exercent pas ce métier, qui en parlent sans avoir une connaissance. Hein.
Et
moi, je ne voulais pas ça, je ne voulais pas parler de quelque chose que je ne connaissais pas.
Et
je crois qu'on est tous victimes du capitalisme, qu'on est tous victimes de ce système
hein,
qui est toujours plus dur. Et j'ai compris que nous, on n'était pas moins victimes que les autres. Et il y avait un intérêt, bien sûr, que j'avais, et je ne voulais pas victimiser qui que ce soit non plus.
Les corps, les pensées de ces filles trans qui habitent dans ce bordel en Argentine sont tellement fortes que on s'en souviendra, je crois, à tout jamais, une fois qu'on a lu votre livre, Camila Sosa Velada. Est-ce que vous saviez, quand vous exerciez ce métier de prostituée, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez en écrire ?
Oui,
je le faisais déjà en fait, je le faisais en même temps d'ailleurs. Et je vivais des choses bien sûr qui me marquaient, j'avais des expériences. Et par exemple, marcher de nuit hein, dans une ville comme Córdoba et en étant trans, comment les gens me recevaient, des réflexions sur l'amour aussi. Sur des relations avec certains clients qui étaient quelque part plus amoureuses en fait. Hein, et déjà, j'écrivais là-dessus. Hein, et d'une certaine manière, j'écrivais déjà ce livre.
Toda esa parte, si se quiere,
et aussi, en fait, en écrivant cette partie historique qui parle de mon adolescence, de comment mes parents ont reçu le fait que j'étais trans, comment le village aussi a reçu ça.
Donc, il y a une part autobiographie à l'intérieur de votre livre. C'est comme une espèce de résurrection de votre existence, Camila Sosa Velada.
Bueno, es tratar, es un intento, yo diría, desesperado.
Je dirais que c'est une tentative désespérée, d'abord, pour raconter, en fait, ce qui nous est arrivé à nous comme famille. Je parle de mon père et de ma mère, mais je pourrais parler de mes grands-parents, de mes cousines. Je voulais raconter ce qui s'était passé dans cette famille. Ça, c'est d'un côté. Et puis, de l'autre,
la possibilidad de hacer mundo que tiene la
la possibilité de faire un monde qu'a la littérature. Et je crois que c'est, il n'y a que la littérature qui peut permettre ça et revenir en arrière.
Pequeños cambios
et faire des petits changements, des petites corrections par rapport à la langue.
Que nos permiten cambiar, no la historia, pero sí
qui permettent de changer, pas l'histoire, mais en même temps, mais plutôt le ressenti, sa mémoire.
Es decir, perdona, es decir,
ce
yo
qui veut dire,
no tengo la misma perspectiva
j'ai
ahorita,
pas la même perspective
no la
aujourd'hui, où je ne l'avais pas quand j'ai écrit Les Vilaines, que celle que j'avais quand j'étais seule, avec effectivement des parents qui ne me défendaient pas toujours, quand je ne savais pas qui consulter par rapport à ma santé, à ma sexualité.
Eso que parece
dont j'avais le sentiment que ça n'allait jamais changer, qui était quelque chose de cristallisé, mais en fait, la littérature peut changer ça. Donc, plus qu'une résurrection, je dirais que c'est une réincarnation, en fait, hein, en quelque chose de différent.
Votre livre, Camila, parle d'amour, d'amour entre les prostituées, d'amour entre les trans, de tentatives d'approche de l'amour. Je voudrais vous faire écouter la voix de Marguerite Duras qui va parler de la peur et de la solitude dans l'écriture. C'est un extrait du film « Écrire » de Benoît Jacquot. C'était Marguerite Duras en 2001.
Quand je me couchais, je me cachais le visage. J'avais peur de moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pour ça que je buvais avant de dormir. Ça passait tout de suite et après je dormais. Mais c'est extrêmement troublant, cette solitude. Parce que toute la maison écrivait en moi. Tout et le signifiant était partout. Quoi. Et quand je voyais d'autres gens, je ne les connaissais plus. Il y a eu plusieurs années comme ça. Terrifiantes. 10 ans, oui, au moins. Des amis très chers qui venaient me voir. Et puis c'était pour moi. Je sais pas. Pas toi, je te mets pas dedans. Mais des gens qui me voulaient beaucoup de bien. Mais c'est tout, avec lesquels. Et qui venaient par gentillesse, qu'est-ce que tu. Ça rend sauvage, l'écriture, oui. C'est vrai, il y a une sauvagerie qu'on rejoint. Antique. La sauvagerie de la forêt, de la peur aussi. Mais acharnée. On ne peut pas écrire sans force. Je crois pas. Il faut être plus fort que ça pour aborder l'écriture, plus fort que ce qu'on écrit. C'est une drôle de chose.
Bueno, ella hablaba también de la escritura de verdad, ¿verdad?
Effectivement, elle écrivait, elle parlait de cette écriture. Vraiment, elle voulait écrire et elle écrivait pas. Et je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains en fait, qui veulent écrire et qui n'écrivent pas, qui veulent lire et qui ne lisent pas. L'écriture pensée ainsi comme pensait Duras, qui devait effectivement prendre note d'un certain nombre de choses qui appartiennent à l'individu, se passe très peu. Hein. Je crois qu'en plus de l'écriture, moi, j'ai été sauvage toujours, mais depuis très petite, en fait. Hein. Parce que j'étais aussi entourée de gens qui étaient fous, des gens qui étaient passionnés l'un pour l'autre, comme mon père et ma mère, et également avec la peur pour l'alcoolisme de mon père, et cette espèce de soumission d'orpheline hein, qu'avait ma mère par rapport à lui.
Hein,
et c'était une folie qui était présente dans toute la famille.
Hein,
et j'ai été, je crois, sauvage tout le temps.
No creo que haya sido solo la escritura.
Je ne crois pas que ça a été seulement avec l'écriture. Je comprends évidemment que cette véritable écriture provoque une espèce de retour en arrière, en fait, un retour vers des civilisations anciennes, et on redevient plus primitif. Et je crois que dans ces moments-là, j'essaye d'éviter de raconter des histoires. Et je crois qu'à l'intérieur même du travail, de manière très concentrée, en étant des heures et des heures à mon bureau, et avec donc, toutes ces créatures qui arrivent de mon écriture,
hein,
je commence à être beaucoup plus critique sur les gens, sur le système. Je me dis que tout ça, c'est vulgaire, violent, hein, que ça nous vampirise. Et je m'enferme à l'intérieur de moi-même. Et je peux même souffrir, d'ailleurs, parce que ça veut dire que je deviens agressive et méchante, hein, parce que je suis seule aussi.
Votre livre, Camila, nous emmène dans un univers extrêmement étrange que nous ne voulons pas quitter, tant les sentiments y sont intenses. Cet univers que vous nous décrivez, il n'est pas déployé sur le plan chronologique. La structure de votre premier roman est très complexe, puisque le personnage principal va avoir plusieurs âges, mais quand le roman s'inaugure, il est déjà dans sa vie de transe. Et puis, ça ne sera que vers le milieu du texte que vous, en tant qu'écrivain, allez décider de le faire partir, si j'ose dire, repartir vers l'enfance et l'adolescence. À quel âge, vous, Camilla, vous avez compris que vous n'étiez pas, quand vous étiez enfant, dans le corps que vous souhaitiez ?
Bueno, eso no es un entendimiento que
c'est pas une
que yo haya hecho nunca,
compréhension
yo,
en fait en tant que tel. Je crois que ce corps en fait qui me correspond, je crois que à aucun moment en fait ne s'interroge pas sur ce qu'est leur nature et ce que ça provoque sur les autres. Je me souviens, en fait, quand j'ai commencé à sentir,
à vivre comme une trans,
à vivre, en fait, comme une trans. Je dirais que je n'ai pas un véritable souvenir. Je me souviens, à 3-4 ans, en fait, mettre les ceintures de ma mère dans le bain. Et j'avais déjà le sentiment que c'était interdit. À 6-7 ans, quand je le faisais, c'était quelque chose de très habituel pour moi.
Sin embargo, hay ciertos hechos que podrían
on pourrait pas dire en fait qu'il y a eu un baptême, une initiation. Je crois que la première fois que je suis sortie dans la rue à 14 ans, marcher tout simplement. Et c'était ce que je pouvais faire en fait dans le village, en cachette de mes parents. Hein. Je sortais de la maison et puis je me travestissais en fait en cachette en fait dans des lieux différents. Ou alors j'allais à la rivière en fait hein, et je m'habillais là-bas, et j'y restais jusqu'à ce que je rentre à la maison. Mais je voudrais dire qu'il ne s'agit pas, en fait, d'un corps qui s'est trompé. C'est un corps qui me plaît. En fait, l'erreur, ou celui qui se trompe, c'est le monde. C'est les gens, pas moi. Moi, je suis vraiment à ma place, en fait, et ce corps-là, je l'accepte.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Camilla Sosa Villada, c'est Ella Fitzgerald, Round Midnight.
It begins to tell round midnight, midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight. Haven't got the to stand those memories when my heart is still with you. An old midnight knows it too. When a quarrel we mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my heart, and I'm heart's taking wings round midnight, midnight. Let the angels sing for your returning till our love is safe and sound. And oh,
nous avons la chance d'être dans un téléphone un peu arrangé techniquement avec Camila Sosa Vilada qui a publié il y a quelques mois un livre extraordinaire. On peut pas la faire rougir puisqu'elle est trop loin. Mais vous, Laura Alcoba, vous qui êtes écrivaine, dont on connaît bien vos livres, qui sont à la fois autobiographiques, politiques et aussi poétiques, vous avez eu la chance de traduire ce livre de Camila Sosa Vilada. Comment peut-on inscrire dans la littérature argentine contemporaine ce livre qui, à nos yeux d'occidentaux, est un véritable ovni?
C'est vrai, c'est un ovni, c'est un livre unique. Il a une force incroyable. Camila, elle a insisté sur le fait qu'elle ne vit pas à Buenos Aires. Et ça, je crois que c'est important. Elle vient de ce qu'on appelle en Argentine el interior. Donc c'est l'intérieur du pays et ça a été d'autant plus difficile pour elle. Son itinéraire est absolument incroyable. Et il y a toute un courant qui vient de d'autres lieux. La littérature argentine était très citadine pendant longtemps. Je crois que le mélange dont on a parlé un peu de merveilleux et de réalité crue, et on est à la fois dans le témoignage et puis on est dans le réalisme magique et puis on est dans une chose différente, nouvelle, unique, première, je crois, parce que c'est pas du réalisme magique. Je crois que c'est ce nouveau courant hybride, très féminin, très marqué par les femmes. Je pense que Selva Almada s'inscrit dans ce courant. Elle est aussi éditée par Anne-Marie Métellier. Et j'ai eu aussi la chance de traduire Selva Almada. Et je vois beaucoup de points communs entre ces deux femmes qui viennent de cette autre Argentine, une Argentine plus rude, plus difficile, où être femme ou être trans, là en l'occurrence, c'est vraiment pas évident, hein. Je crois, oui, que moi je l'inscrirais dans ce courant de el interior, hein, l'intérieur du pays, et très féminin, où se trouver un chemin comme femme relève de la lutte. C'est une quête et c'est une lutte quotidienne.
Je vous propose à toutes les deux, Camila Sosa Vilada et Laura Alcoba, d'écouter la voix de Jorge Luis Borges qui va parler de la prose et de la poésie et de son amour de la poésie. On écoute la voix de Borges.
Je me considère comme un poète. Mais ceux de mes amis qui sont des poètes pensent que je suis un prosateur et que je suis un intrus dans la poésie. Ceux de mes amis qui sont des prosateurs me considèrent plutôt comme un poète. Mais je ne sais pas s'il y a une différence essentielle entre la prose et le vers. Il y a une différence de forme, tout simplement. Mais l'émotion qui cause une page en prose n'est pas différente de celle qui cause un poème. Mais je sens que ma poésie est plus immédiate et plus proche de moi que la prose. Ma prose, est toujours, c'est quelque chose de fabriqué, quelque chose que je fais. Tandis que j'ai l'impression, peut-être fausse, je sens que la poésie émane de moi, que ça a une source en moi, qu'elle coule d'une façon plus directe et plus pure. Tandis que dans la prose, il y a toujours l'intervention de l'intelligence. Je sens que la prose est un peu fabriquée. Et la poésie, non, je crois que je suis plus près de mes pièces en vers que de mes pièces en prose.
Lo que sucede es que además, yo creo que la literatura está recibiendo...
Ce qui se passe... Je dirais en plus, c'est que je crois que la littérature avec Pedro Lemebel et puis ici aussi Puig, on est arrivé avec une parole qui est donc auquel on n'avait pas l'habitude, mais qui est le langage des trans en fait. Et c'est un langage qui se forge dans la rue, loin des normes du langage. Et qui bien sûr doit toujours être flexible. Donc je dirais que toutes les réflexions qui ont été faites sur la poésie et sur la prose ont toujours eu à voir avec une vision du monde toujours un petit peu plus restreinte que la dimension réelle du monde littéraire réel. Et je crois que ce qu'on faisait en secret, en fait, hein, les trans, les gays, c'était quelque chose de très poétique, de manière à ce que, comme moi, j'ai trahi le genre masculin et que j'ai décidé de ne pas mentir, même à moi-même, par rapport à qui j'étais, en disant comment je voulais être nommée dans le monde, je fais la même chose en littérature. Et je suppose, évidemment, ce que je dis n'est pas quelque chose d'absolu, mais ça a à voir avec ce langage qui se forge, qui se construit hors des institutions. Il y a une classe moyenne, une classe puissante qui a toujours donné les normes, les paramètres de ce qu'était la prose, de ce qu'était la poésie, qui était correct grammaticalement ou pas.
Dans ce livre, Camila Sosa Vilada, vous mettez en scène dans ce bordel des trans, mais aussi des femmes, des jeunes femmes et des vieilles femmes. Tanta Incarna est une vieille femme, mais il y a aussi des jeunes femmes. Tout à l'heure, Laura Alcoba disait que c'est un nouveau courant de littérature sud-américaine et plus particulièrement argentine, féminin. Très féminin. Est-ce que c'est parce que vous êtes devenue une femme que vous avez pu écrire avec tant de profondeur sur les femmes et sur les trans, Camila?
Ay, pues qué tema.
Waouh, quelle question, quel sujet.
Idioma, hein?
C'est difficile de répondre à ça. Alors moi, j'arrive même pas à m'entendre moi-même, à me comprendre moi-même, pardon. Je ne sais pas si je comprends. Je crois que je comprends personne, ni les hommes ni les femmes, et c'est pas à travers la compréhension que j'ai une relation avec les gens. Et quelquefois, quand je comprends les gens, en fait, ils m'ennuient. Je crois
que
le féminin a à voir davantage qu'avec le genre, avec une perspective. Je crois que c'est le lieu à partir duquel on regarde, c'est le lieu à partir duquel on forge de notre écriture. J'ai entendu le nom de Selma Alvada, c'est Sissi. C'est effectivement une écrivaine dans une ville avec la possibilité d'être éditée, d'être lue, être une écrivaine qui a des contacts. C'est pas la même chose que quand on est une écrivaine qui s'assoit à côté de la rivière et qui se demande si ce qu'elle a écrit va être édité ou lu. J'ai eu la chance que soit apparu en fait dans les réseaux sociaux des choses et je publiais sur les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui me lisaient, d'autres non. C'était suffisant pour moi à ce moment-là. Mais j'ai toujours eu la conscience que effectivement ce rapport au masculin et au féminin était quelque chose qui avait un rapport avec une écriture, avec un style. Il y a aussi des femmes qui sont ennuyeuses et écrivent comme des hommes qui écrivent sur des sujets qui n'intéressent plus vraiment et qui écrivent comme écrivent les hommes, hein, et ça a à voir avec la perspective à partir de laquelle elles regardent le monde, bien sûr.
Il y a une religiosité à l'intérieur de votre livre, Camila Sosa Vilada. D'ailleurs, quand on a commencé cette émission, j'ai choisi un court texte où votre personnage, qui vous ressemble beaucoup, prie pour pouvoir devenir une fille, prie pour ne pas avoir de sexe masculin, prie pour que des seins lui poussent, etc., etc. Cette religiosité, elle imprègne aussi le bordel, qui est la scène où se passe à peu près tout le roman, car dès le début du roman, un enfant va être trouvé dans les broussailles du jardin, où il y a ces ébats nocturnes tarifés. Cet enfant va être, ce petit bébé, va être pris en charge par la communauté des trans et des prostituées, et va vivre dans ce bordel. Et il peut faire penser, éventuellement, à Moïse ou au petit Jésus. Il y a quelque chose d'une croyance à la religiosité. Est-ce que je me trompe, Camila Sosa Vilada?
Alors, je dis toujours la même chose, en fait, hein, par rapport aux vilaines. J'écris son plan. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris de Marguerite Duras. Hein. En plus, je ne sais jamais très bien où je vais, à part certaines images, et cette image, en fait, de la tía Encarna qui traverse le parc pour chercher ce bébé qui pleure. Mais au fur et à mesure que le livre avançait, je me disais, mais il faut que cette communauté crée à quelque chose. Il faut que les femmes qui soient là croient quelque chose, comme nous tous. Il faut qu'elles aient un contact avec quelque chose de spirituel. Ça ne peut pas être seulement quelque chose de terrestre. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus qui se passe. Alors, ça a pris la forme, que ça a pris un peu... magique et avec ces trans en fait qui s'occupent les unes des autres et qui s'occupent de choses un petit peu virtuelles. On pourrait dire aussi elles sont influencées par le catholicisme un peu païen de ma famille, hein. Grands-parents étaient croyants, ma mère était croyante, mes tantes étaient croyantes, elles ne vont pas à la messe, hein. Seulement elles mettent des bougies pour les saints. Et je dirais, j'ai été et je suis toujours influencée par cette imagerie, en fait, hein. Par cette manière de comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de la chair.
Nous allons écouter un reportage sur la loi de discrimination sur les trans en Argentine. C'est une archive qui date du 17 septembre 2020. C'est un reportage de France Info avec Anne Cohen.
Suzy Choc est écrivaine et chanteuse. Elle est aussi transsexuelle. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Son pays, l'Argentine, a voté une nouvelle loi de discrimination positive pour les transsexuels, transgenres et travestis. 1% des emplois de l'État leur est maintenant réservé.
Chaque petit pas pour notre communauté est énorme. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie de chanter ici. Qu'un transsexuel apparaisse à la télévision en tant que journaliste, en tant que penseur, pour parler pour nous-mêmes et pour que les autres cessent de parler à notre place.
De la communauté trans vit dans la précarité du fait d'une grande discrimination.
Ma communauté doit clairement montrer, démontrer ce manque d'acceptation. D'abord, les parents qui ne vous aiment pas, la police qui vous persécute, l'État qui ne vous laisse pas de place.
L'Argentine permet aux transsexuels et aux travestis de changer d'identité depuis 2012. C'est ce qu'a fait Thomas, né fille. Il est désormais employé à la Banque Nationale.
Je Au-delà de la symbolique du travail, il y a quelque chose de réel et de concret. C'est d'avoir une retraite demain, une assurance maladie. Et des collègues qui se soucient de vous.
Les choses bougent, mais malgré tout, la situation des personnes LGBT reste critique. On compte déjà 69 agressions au cours du premier semestre 2020.
Alors, le décret confirmant donc cette loi de discrimination positive vient d'être voté, hein, il vient d'être appliqué il y a très peu de jours. Est-ce que pour vous, Camila Sosa-Vilada, ça signe une victoire et une nouvelle ère pour l'Argentine?
¿Sabes de qué tengo miedo yo?
Vous savez de quoi j'ai peur, en fait?
Non alcance à tocar à quienes realmente
necesitan. C'est que ça n'arrive pas, d'une certaine manière, à toucher les gens qui ont vraiment besoin de être inclus sur le monde du travail. C'est-à-dire que les trans de la classe moyenne ont pu se sauver d'une certaine manière. Et ça, c'est ma grande préoccupation, en fait, les gens qui ne pourront pas être touchés. Hein? Et puis, il y a une grande différence de génération entre les trans qui existent depuis les années 90, la première décennie des années 2000, avant la loi en fait de discrimination positive, nous, comme trans de cette période-là, on a eu des souffrances qui sont intraduisibles pour les trans d'aujourd'hui, hein, en plus des discriminations, en plus des crimes terribles qui se commettaient sur nos corps. Et il y a des choses qui ne sont pas encore prises en compte, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les femmes trans qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de travail et qui sont fatiguées parce que la vie d'un trans, c'est épuisant en fait. Quelqu'un qui doit sortir dans la rue tous les jours, affronter le regard des gens, ses voisins, les commerçants qui lui vendent son pain, hein, et devant toujours donner des réponses par rapport à une identité. Et ça, c'est pas encore considéré. Et c'est ça qui vraiment me préoccupe aujourd'hui, vous savez. Oui, je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir et qu'on doit anticiper. Aujourd'hui, en Argentine, on se bat pour qu'il y ait une reconnaissance des trans qui ont survécu à la dernière dictature militaire, pour que, d'une manière ou d'une autre, on puisse leur assurer une subsistance économique. Hein, et je crois que c'est le minimum. C'est le moment où il faut redonner aux gens tout cet argent qui leur a été volé, tout cet argent qui nous a été volé.
L'histoire heureuse et pornographique d'un pays où les hommes honnêtes ont travaillé la terre, où les petits-enfants d'immigrés ont peuplé la patrie, mais où tous ensemble, les gringos, les noirs, les indiens, les métis, tous ces hommes au grand complet auraient fini par brûler sur un bûcher public rien que pour coucher avec une trans. Ça, c'est à la fin de votre livre, Camila Sosa-Vilada, à la fin des vilaines. Et vous terminez en disant cette phrase qui me paraît très importante. Il est plus difficile de changer que de mourir. Est-ce vrai?
Lo creo así.
Oui, absolument. C'est ce que je crois.
Ben, merci infiniment, Camila Sosa-Vilada. Et vraiment, bravo pour ce livre magistral, poétique, humaniste, philosophique, sentimental, et qui est un grand roman d'amour. Peut-être un dernier mot, Laura Alcoba.
C'est un roman extraordinaire et on peut lire des articles, on peut lire des témoignages, on peut lire des essais, mais la littérature arrive à exprimer des choses que rien d'autre ne peut exprimer. Et là, elle a réussi ça. Être trans, qu'est-ce que c'est? Lisez Les Vilaines. Et vous ne le comprendrez jamais aussi bien.
Thank you.
beau jour, la glycine danse sur le toit.
Et c'est avec Coquelicot de Laura Cahen que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Clément Vuillet qui est à la régie technique. Merci encore à Camila Sosa Vilada. Merci à Laura Alcoba qui est la traductrice de votre premier texte intitulé « Les vilaines ». Et merci à Pascal Fougère pour la traduction simultanée de vos propos. Ce premier livre magnifique est intitulé « Les vilaines ». Il est publié aux éditions Anne-Marie Métayer. Merci à Céline Villegas, Louise Tempéro, Élodie Royer. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.